La mère, c'est une femme pour moi. Et la femme, c'est la mère. C'est une mère et c'est une mère, M-E-R. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle est plus forte que nous. La mère, c'est fantastique. Cet éternel recommencement. Ah là 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 là. Je ne suis pas amoureux de la Méditerranée parce que, je ne sais pas, l'air. Quand je suis tout près de la Méditerranée, donc quand je suis à Monaco, je me sens mal, je ne suis pas bien. Moi, j'aime l'eau de l'Atlantique. C'est vrai, ça. Et ça, j'ai fait l'expérience et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai une maison ici à la mer, donc en Méditerranée, et j'y vais très rarement parce que lorsque j'y vais, je ne suis pas très bien, quoi. L'Atlantique me manque. On m'a volé l'Atlantique. Laisse-moi dire ça en colère. On me l'a volé d'une façon dégueulasse, ignoble. Voilà. C'est une gonzesse qui m'a volé l'Atlantique. Faut le faire, ça, hein. Souvent, ça évoque pour moi la propreté et le bruit, quoi. Le bruit de la musique de la mer. C'est ça, le vent. Je n'ai peut-être pas dit à personne, ça. Quand on me parle de Vauban, je pense à Monil, l'île du Guéclin, qui est le fort Vauban, quoi. Voilà, c'est ça, le fort Vauban. Et puis, j'avais reçu les paroles de Pierre Segers, l'éditeur et l'écrivain. Il m'a émis « Merde pour Vauban », ce qui était une connerie. « Merde à Vauban », c'est beaucoup mieux pour chanter, pour dire les choses, quoi. Et je lui ai demandé de changer ça, de dire « ah » au lieu de « pour ». C'était pas musicien, quoi, hein. Et puis, j'ai chanté, et puis voilà. Mais c'est clair, c'était un drôle de type. Il était attentionné par les gens qui avaient un nom de la littérature. Oui. Moi, le jour où ce Charles Estienne m'avait dit je voudrais faire un livre sur toi, j'ai dit, tu sais, moi, c'était en 1960, là. Je sais pas, moi, il me dit. J'ai dit, oui, alors tu vas faire un livre sur moi. Mais alors tu vas chez Segers et je veux rentrer dans la collection poète d'aujourd'hui. Je faisais ça exprès, hein, pour... Il est allé et Segers a accepté. Dieu, c'est une souris, s'il vient de te dire bonjour avec ta patte. Dieu, c'est Einstein. Dieu, c'est Beethoven. Dieu, c'est la pensée merveilleuse qui fait que les gens trouvent à la vie un plaisir... extraordinaire. Dieu, c'est dans les plantes, Dieu, c'est dans les oiseaux, Dieu, c'est dans les femmes. Et voilà, c'est tout. Ça m'énerve quand on parle de Dieu, et puis voilà, quoi. Moi, ce que je peux pas supporter, c'est l'Église, c'est l'encens, c'est le péché mortel, c'est... Oh, le péché mortel. Le péché n'est jamais mortel. Le péché est merveilleux, quoi, non? Et puis, c'est pas le péché, quoi. Ça me fait râler, ça. Qu'est-ce que c'est, Dieu? Hein? Qu'est-ce que c'est? Moi, je dis ni Dieu ni maître, voilà, comme ça. Satan, moi, ça me plaît bien, parce que... Je connais Satan, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, j'allais faire une émission de radio, au moment où la radio était du côté des Champs-Élysées, la radio française. Et j'étais copain avec Breton à ce moment-là. Et Breton m'avait dit, vous savez, Léo, il y a rue Washington, un appartement extraordinaire où il y a des tableaux fantastiques, mais des tableaux que personne n'a jamais vus, qui ne sont connus que par la personne qui les a. Alors ça remonte à quand, 17e, 16e siècle, là, comme ça. Et alors, on se demande ce que c'est. J'ai dit, mais vous n'avez pas été voir? Il me dit, ah non, non, je sais pas. Ah, bon. Alors, j'étais avec lui dans la rue. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui, et puis il n'est pas venu, et je vois un monsieur avec un chapeau, un borsalino, comme on dit, qui me sourit un peu, comme ça, hein, mais un sourire d'ami, comme ça, hein. Bon. Ah, je tiens, c'est bizarre, ça. Et ce type me dit, non, non, rien du tout. Il s'en va, moi je m'en vais aussi, je dis tiens, bon. Quelques jours après, je passais exprès à ce moment-là, aux Champs-Élysées, j'allais du côté de la rue Washington, quoi. Et j'ai vu ce type venir vers moi, avec le Borsalino, et qui me dit, Monsieur Ferré, venez avec moi. Et j'ai eu confiance immédiatement. Je suis rentré dans un appartement gigantesque que je ne m'attendais pas à trouver, parce que la rue Washington, c'est pas une rue énorme, n'est-ce pas? Et je suis rentré là-dedans, et il y avait effectivement des tableaux recouverts de noir. J'ai dit, tiens, ça c'est les tableaux de Breton, quoi. Et alors, il m'arrive, il me dit, venez voir. Il me rentre dans une pièce énorme, extraordinairement grande, avec, au mur, je sais pas le nombre, parce que c'était des tout petits téléviseurs, des mini-téléviseurs. Hein. Il me dit, regardez. Et au milieu, il y avait un agrandisseur. Il me dit, tout d'un coup, il regarde un truc, sur un truc, et puis une petite mini-télévision, il regarde, et regardez là-bas, et regardez. Alors, il agrandit, et je vois, qu'est-ce que je vois? L'autoroute, et tout d'un coup, un accident abominable. Abominable, avec du sang. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce type quand même? Et à droite de l'écran, il y avait une femme, tout en noir, d'une beauté fulgurante. Toi qui m'écoutes, tu n'as jamais vu une femme comme ça. Ah! J'ai regardé, je lui dis, vous avez vu cette femme, monsieur? Et il me dit, oui, c'est ma seule concurrente. J'habitais chez ma mère quand j'étais petit, puis alors chez ma tante aussi. La tante de ma mère à Monaco, on appelle ça les remparts, près du palais Princil. Et dans la rue, je jouais, et très souvent tout seul, en parlant à des personnages imaginaires, et j'ignorais que je parlais à des personnages imaginaires, quoi. J'avais l'impression qu'on m'écoutait, qu'on m'entendait. Voilà ce que ça représente Monaco pour moi. De ces remparts, je voyais la mer, je voyais des bateaux. Alors avec des copains, on inventait des histoires de bateaux qui apportaient le charbon là. Et alors c'était fantastique parce que on disait des choses. Et puis moi, j'imaginais mon cousin qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était un homme étant marin, partant et revenant. Alors je disais à mes copains, hé, dis donc, Mathieu, il est là. Oh là là, viens, on descend. Voilà. Ma mère mettait du vernis à ongles. Je voyais des bateaux amarrés, jamais partis. On n'a que les odeurs qui s'inventent à nous par hasard. Naître près de la mer, cela veut dire se sentir elle, jusque dans les moindres détours de la pensée, du verbe, du muscle. On pense la mer parce qu'elle est verte, bleue, grise, incolore, et qu'elle a des odeurs vertes, bleues, grises et incolores. On la parle aussi. Quand elle est en colère, on crie comme elle. Lorsqu'elle chante, on s'enchante avec elle. Enfin, on est le mouvement même de la mer, parce que nos nerfs, ondoyant comme elle, s'identifient en permanence à son rythme d'hiver, à ses sautes d'humeur, à ses calmes effrayants, à sa mathématique de vierge cavaleuse. Mon père était très gentil, mais il ne montrait pas à l'avance qu'il était tellement gentil, quoi. Il faisait peur un peu aux gens, je crois. Et c'était un brave homme. Je dois dire qu'il y a eu une incompréhension avec mon père, parce que j'étais le canard, quoi. Ah, voilà, j'étais le canard, j'étais l'artiste, sans savoir que j'étais artiste. Ça, le drame de ma vie, c'est que j'étais artiste tout petit et que je n'ai jamais su que j'étais artiste. Je ne l'ai su qu'après, et le jour où j'en suis aperçu, je me suis caché, vraiment. Je me suis caché. Je suis allé à la messe tous les jours, pendant 8 ans. Hein? Quand je vois un curton, moi, je suis pas content, hein. Je cherchais souvent pourquoi j'étais dans ce collège. On était au lycée ensemble, tout petit avec ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi. Et puis, un jour, j'ai été au collège. En définitive, je crois que mon père connaissait quelqu'un qui avait un fils au collège, ou qui avait été au collège. Mais ça, je ne l'ai jamais su exactement. Ma mère venait de temps en temps me voir une fois par entre les vacances et m'amener à Bodigras. J'étais content parce que je marchais comme ça avec elle dans la rue. J'étais seul et j'étais un peu libre, quoi, parce que ma mère m'aimait beaucoup. Elle était un peu secrète, mais elle m'aimait beaucoup. Et alors, elle m'a amené dans un petit bistrot où il y avait le chocolat. Le chocolat avec le lait, quoi. Moi, j'ai toujours eu horreur du lait. Ma mère m'a dit que je rendais son lait lorsqu'elle m'a donné et que j'étais dans ses bras, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que j'aime toujours le chocolat très chaud, très, très puissant et très épais, n'est-ce pas? Alors j'allais dans ce bistrot avec ma mère, et à Bordiguère, là-haut, et puis là, je mangeais ça. Et un jour, il y avait une radio, une ancienne radio, quoi, une des premières radios, quoi. Il y avait une radio qui était à côté de moi, sur la table, et qu'est-ce que j'entends? Tata, ça, ce sont lui, ta-ta-ta-ta. Ah, je me suis mis à pleurer, à sangloter. Je n'avais jamais entendu ça. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu as, Léo, ça va pas? Et je lui ai dit, non, maman, tu vas partir tout à l'heure et ça me fait de la peine. C'était extraordinaire, ça. Je me suis empêché de dire que je pleurais à cause de la musique. Beethoven, c'est... Allez savoir. J'aimerais savoir, j'aimerais regarder comment il vivait. Il n'était pas tellement heureux. Il était à son piano, il travaillait. Et souvent dans la rue, des gosses jetaient des pierres, quoi. Quand il marchait. Ludwig van Beethoven, c'est fantastique, ça. Le dieu, c'est Beethoven. Ah, ça, c'est le dieu, évidemment. Le dieu, Beethoven. La provocation sur la parole, juste crier très fort dans l'oreille des gens. C'est ça, pour moi, la provocation. En tout cas, en ce qui me concerne, quoi. Ça ne doit pas être malhonnête, la provocation. Provocation, c'est le cœur sur la table et qu'on ouvre et qu'on remet sur la table, qu'on se remet dedans et qu'on ressort. Regardez, mon cœur, si tu ne le vois pas, je te le fous dans la gueule. En Italie, il y a deux choses qui marchent très bien et qui sont terribles. C'est la mafia et le Vatican, quoi. Bon, je suis seul à dire ça, d'ailleurs. Parce qu'on parle toujours de la mafia, on ne parle jamais du Vatican. Le Vatican, c'est une autre mafia, hein. Si vous allez dire ça à des gens qui vont toujours à la messe, tout ça, ils vous rionnent ou alors ils vous font de ces gueules abominables. Il y en a assez, monsieur le pape, monsieur l'enseignant de la vérité à la con. J'écris monsieur Doublan parce que il s'est tu avec les histoires des juifs enfermés, crucifiés, brûlés à vif. En Allemagne, et on le sait, parce que je trouvais ça abominable. Et c'était pas original de ma part de trouver ça abominable, mais enfin quand même, je le dis hautement. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'anarchie. Pour moi, l'anarchie, c'est l'extrême solitude. C'est pour ça que je dis que l'anarchie, c'est l'amour. Les anarchistes, le parti anarchiste, ben c'est comme les autres partis. Un jour ou l'autre, ça va pas, quoi. C'est l'extrême solitude. Les gens ne savent pas que ça. J'ai connu deux anarchistes, deux vrais anarchistes, dans le centre de la France. Il y en a un qui vivait tout seul avec son chien, dans une petite baraque. Il avait toujours le sourire. Parce que les anarchistes ont toujours le sourire. Et un autre, il vivait aussi dans une baraque, mais il avait une femme. C'est-à-dire une camarade, une femme à qui il vivait sans être marié. Et un jour, il s'est marié. Alors ça a été la merde. Ils se sont séparés. Mais je pense qu'il est toujours anarchiste. Moi, je suis anarchiste depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Certainement. J'avais 14 ans, j'avais été voir le petit Larousse, le tout petit Larousse illustré, et j'avais été voir le mot anarchie, à savoir pourquoi j'avais été voir ce mot-là. Et j'ai vu anarchie, alors la définition, négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Point final. Et ça m'a plu beaucoup et j'ai pensé que j'étais anarchiste. Et pourquoi j'avais été voir ce mot-là? Allez savoir. Je sais pas. La nuit, ça me transporte. Parce que la nuit, à part le fait qu'à la nuit, il y a des gens qui font des hold-up, qui font des trucs, qui assassinent des gens. Non, mais je pense pas de ça. La nuit, les cons dorment. Voilà. C'est pour ça que j'aime la nuit. Et c'est vrai, ça. Les cons dorment. Ils se lèvent le matin, ils mettent des chaussettes, tac, ils vont travailler. Et le soir, ils rentrent. Et ils redorment. Tandis que la nuit, il y a les marrants, quoi. Les terribles. J'avais fait une chanson qui s'appelle Richard, que je vais mettre dans un nouveau tour de chant maintenant. Je parlais à Richard et je lui disais... Je le voyais dans un bistrot, toujours. Je regardais derrière le comptoir. C'est la seule chose qui va très bien avec moi, avec les copains que j'aimais. C'est la mélancolie et la solitude habitée. La solitude habitée, c'est la solitude, comme ça, du moment, avec quelqu'un, trois, quatre personnes, et après, ça te laisse une réviviscence qui fait que tu habites ta solitude, tu n'es plus seul, tu n'es jamais seul, et tu es toujours seul aussi, et moi je préfère être seul, toujours. On m'a demandé souvent si j'avais le trac quand je rentre en scène. Et moi, ça me fait râler parce que je vois des acteurs, des actrices comme ça de scène, de chansons, pour ce qui me concerne, qui rentrent en scène et qui sont comme ça. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qui ont le trac. Je n'ai jamais eu le trac de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Et la raison, je la connais. C'est que je n'aime pas beaucoup aller chanter sur la scène. Voilà, et c'est ça. Ah oui, c'est ça. J'ai fini par trouver la raison. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que ces gens-là ont peur comme ça? Un jour, j'étais à, je sais pas si c'était à Bobino, à l'Olympia, ou une émission de télévision. Il y avait un guitariste qui était connu à ce moment-là, qui chantait en s'accompagnant à la guitare. Et quand je l'ai vu rentrer en scène, je l'ai vu, il a fait le signe de croix. Ah, ça m'a tué, ça. Ça m'a tué, quoi. Moi, je rentre sur la scène comme je rentrais dans ma cuisine. J'ai beaucoup aimé les chevaux quand j'étais petit parce qu'il y avait des... À Monaco, où j'étais, il y avait des fiacres avec des chevaux. C'était les taxis de l'époque, quoi. Et je les voyais comme ça. J'étais devant le casino, il y en avait un peu partout, mais là, devant le casino, il y en avait alors qui grattaient un peu par terre parce qu'ils devaient s'ennuyer des fois. J'ai une amie de ma mère. De temps en temps, je mettais dans la cuisine, il y avait... Je prenais une espèce de manivelle dont je serre pour les rideaux. Je prenais les chevaux comme ça, tac, tac, tac. J'avais les guides et puis je les faisais marcher et je leur parlais aux clients qui venaient. Je leur disais, à vous, je vous prends pas, vous êtes une sale gueule. Voilà, j'étais comme ça petit. Hein. Et les chevaux, j'adore les chevaux, je sais pas pourquoi. Et, oui, je sais pourquoi, parce qu'ils me plaisent beaucoup. Et puis c'est comme ça, ils ont une belle tête fantastique, quoi. Et un jour, j'ai appris, quand j'étais petit toujours, qu'il y avait des bouchers qui tuaient les chevaux pour vendre la viande. C'est une chose qui me dépasse. Ça, c'est pas possible. Je peux pas imaginer qu'on puisse tuer les chevaux. Alors, et les gens qui mangent le cheval, une fois, pendant la guerre, un copain m'avait fait manger, il avait une espèce de petite bar en face de chez ma mère. Et il m'avait fait manger un beefsteak. Donc, il avait assez, il avait mis de l'ail, quoi, etc. Je suis appris qu'à la moitié de la viande, il m'a dit, alors ça te plaît, Léo? J'ai dit, oui, c'est pas mal. Il me dit, c'est du cheval. Oh là 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 là. J'ai dégueulé. Pépé, c'est pas un cheval, c'est un chimpanzé. Je l'ai trouvé. La première fois que j'ai fait l'Alhambra, au début de l'année, mois de janvier, j'avais fait le vieux colombier avec les poètes. Il y a une femme qui était venue me voir, c'était la directrice de l'Alhambra, et qui m'a dit, venez faire 15 jours à l'Alhambra. On passait en deuxième partie, puis en première partie, il y a des numéros, puis il y a des chimpanzés. Et alors, le type qui avait les chimpanzés, qui ne les touchait pas, qui était gentil avec eux, quoi. Il marchait à l'œil de ce type, c'est extraordinaire. Il ne touchait pas, il les regardait. Comme je vous regarde en ce moment, regardez-moi. Ben, si vous êtes un chimpanzé, vous la fermez, vous comprenez? Alors, ce type m'a dit un jour, il y a un chimpanzé que j'ai trouvé chez, je sais pas, un cirque connu à Paris. Et j'ai trouvé ce chimpanzé dans une cage avec un autre, un singe plus grand, qui lui faisait du mal. Alors je l'ai pris avec moi, et est-ce que vous pouvez me le garder 8 jours? À ce moment-là, j'étais dans l'île, j'avais l'île du Guesclin. Alors je lui ai dit oui, alors j'ai pas le chimpanzé, j'ai eu l'impression d'avoir un enfant dans mes bras, quoi. C'est extraordinaire. Et plus qu'un enfant, d'ailleurs, plus sensible, plus nerveux, je l'ai pris avec moi, je l'ai porté dans l'île du Guesclin, et puis après, quand je suis revenu, Je voulais la rendre. Et puis, je ne l'ai pas rendue, quoi. Je l'ai gardée avec moi à 8 ans. C'est extraordinaire. Chimpanzé. On me l'a tuée. La femme avec qui je vivais a commandé un tueur, le chef des chasseurs, là, de l'endroit où j'étais. Et elle l'a fait massacrer. Et elle était par terre, allongée, dans la tête, quoi. Elle avait été tuée. Et quand je suis arrivé dans cette maison, où la femme qui avait l'autorité, a eu l'autorité de faire ça, qui s'est prise, quoi. Elle est partie. Elle avait laissé une femme qui, pour garder la maison, quoi, pour faire le ménage, avec une autre qui était venue, je parle dans Lot, ça, était venue. Quand je suis arrivé, c'était ces deux femmes dansaient avec un phonographe. Je suis monté au premier étage et Pépé était morte, comme ça. Entre les hommes et les animaux, il y a tendresse, il y a une sorte de complicité qui vient des fois de l'animal, d'ailleurs. La complicité vient de lui-même, ou bien alors, puis on le protège. On est pris par ses besoins, quoi, de manger et tout ça, on s'occupe de lui, quoi. C'est un problème. Mais quand on l'a, on ne s'en rend pas compte que c'est un problème. On se rend compte que ça a été un problème lorsqu'on ne l'a plus. Voilà. Et c'était... Moi, je pourrais plus avoir un chimpanzé, parce que vous attendez pas ce que je vais dire, parce que je suis devenu égoïste. 68, pour moi, c'était l'âge d'or. J'ai une chanson qui s'appelle L'âge d'or. Nous aurons du pain doré comme des filles sous ce soleil d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dans nos veines blanches. Et le plus souvent, lundi sera dimanche. Mais notre âge alors sera l'âge d'or. Eh oui, l'âge d'or. Ça doit exister, c'est comme l'histoire de Lochu en 10 000 de Travel. Lochu, c'était un marin que j'ai connu en 68, en avril. Ah là là, formidable. Il est mort l'année dernière à 88 ans. Et c'était le cœur sur la main, le cœur dans le téléphone, le cœur dans la plume, quand il l'apprenait. Lochu, ce sont des gens dans la vie qui vous restent marqués dans la mémoire, comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont été en dehors du siècle, un peu. Lochu. Lochu, c'était un ami de Macno. Le chauffeur de taxi foutu en l'air et trompé par Lénine. Lénine, qui était un amateur de train. Il prenait toujours le train, Lénine. Il a fait cette révolution, là-bas, qui a fait tout ce mal qu'on sait. Et Lénine, c'est vraiment, d'ailleurs, ça se concrétise maintenant avec tout ce qui se passe, hein. Lénine, je pense que c'était la même branche que Staline. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse.